Hayate, une femme mortellement poignardée par son mari hier soir à la tribu d'Ounia. Une dispute serait survenue dans un contexte d'alcoolisation. Après 4 jours de lutte, l'incendie du Mont d'Or devrait être complètement maîtrisé dans la journée. Quelques points chauds restent encore à éteindre selon les pompiers. En ce dimanche 5 janvier, nous fêtons l'Épiphanie, jour de la traditionnelle galette des rois. Page gourmande et sucrée à suivre dans ce journal. L'Amérique fête ses adieux à Jimmy Carter. Un hommage national pour l'ancien président a débuté ce matin aux États-Unis. Il devrait durer jusqu'à jeudi, jour de deuil national. Le sport, nous reviendrons bien entendu sur le BNC Tennis Open qui s'est clôturé hier soir sur les courts du Wentoro. Victoire, je le rappelle, du japonais Shintaro Mochizuki. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal Info Weekend. À la une de l'actualité, une femme a trouvé la mort tuée par arme blanche la nuit dernière. Elle a succombé au coup de son conjoint à Yaté. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte par le parquet de Nouméa, Michael Gineski.
Oui, les faits se sont produits vers 22h hier soir à la tribu d'Ounia. Selon les premiers éléments des investigations, une dispute est survenue au sein du couple dans un contexte d'alcoolisation. La victime, une femme donc âgée de 54 ans, a reçu un coup de couteau au niveau du haut de la cuisse. Une blessure susceptible d'avoir touché l'artère fémorale et donc provoqué son décès. Ceci sous réserve des investigations médicales en cours, précise le procureur de la République. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer avec exactitude les raisons du décès. L'auteur présumé, âgé de 52 ans, s'était enfui dans la tribu juste après la scène de violence, avant d'être retrouvé et remis aux gendarmes par des membres de la famille. Il a été interpellé à 23h20 et présentait alors un taux d'alcool de 2,14 grammes dans le sang. À ce stade, les enquêteurs n'ont pas encore pu procéder à son audition dans la mesure où l'homme est toujours en état de dégrisement. L'arme du crime, un couteau d'une longueur de lame de 22 cm, a été découvert et saisi par les techniciens d'identification criminelle. L'homme sera placé en garde à vue après son dégrisement.
Et à Nouméa, une enquête devra déterminer les causes de la mort d'un homme dont la voiture est tombée au quai ferry.
Ça s'est passé vers 1h du matin la nuit dernière. Selon les premières constatations, le véhicule aurait roulé jusqu'au quai, au niveau d'Auchan, jusqu'à chuter puis couler. Les plongeurs de la gendarmerie maritime ont dû intervenir pour retrouver le corps d'un homme dans le véhicule. Il pourrait s'agir d'un suicide, mais une enquête devra là aussi faire la lumière sur les faits pour comprendre avec certitude ce qui s'est passé.
Et sur le front des feux de brousse maintenant, l'incendie de la rivière Bleue au Mont d'Or est en passe d'être maîtrisé. Voilà 4 jours que les pompiers luttent intensément contre ce feu qui a ravagé plus de 1100 hectares de surface. Le personnel de la sécurité civile, du RIMAPNC, des moyens nationaux et un hélicoptère bombardier d'eau sont toujours sur place. Les précisions du capitaine Eddy Aïta, commandant des opérations de secours.
On a toujours une partie active sur le flanc droit du feu. Donc on a fait une reconnaissance au moyen du drone. Donc on a des points chauds sur la partie tête de feu avant droit. Plutôt en phase de déclin, mais on a encore des foyers actifs sur le flanc droit de l'origine sur 200 mètres vers la tête du feu. Donc on a engagé des moyens au sol pour faire du pionnier, aller traiter les points chauds. Et en fonction de la situation, donc on a l'appui de l'hélicoptère pour venir renforcer les actions au sol. On peut dire que le feu est maîtrisé. On reste quand même vigilant parce qu'il y a un vent qui est entre 20 et 30 nœuds sur zone. Et puis le facteur vent est à prendre en compte parce que c'est ce qui favorise la propagation. Mais on est plutôt optimiste et ce qu'on peut constater d'un point de vue visuel, c'est qu'on a plutôt un feu en phase de déclin.
Le maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux, a décidé vendredi soir de prendre un arrêté interdisant l'accès à la zone du Grand Sud entre Progny, les Perreux supérieurs et le Pic du Pin afin de faciliter le travail des pompiers. Écoutez le maire du Mont d'Or.
J'ai pris un arrêté, c'est surtout pour que les secours puissent travailler en toute facilité puisque un certain nombre de camions, d'engins faisaient le plein sur le bord de route et en même temps travailler sur le bord de la route municipale. Donc cet arrêté était nécessaire pour empêcher les véhicules de venir contrarier ces travaux. Je voulais rappeler aussi que les pompiers ont fait cet effort considérable hein, pendant 5 jours, mais chacun doit encore faire attention. La période de feu est là, la période de sécheresse est là, et on a pu assister encore cette année à un drame écologique.
Un incendie qui, je le rappelle, serait d'origine accidentelle dû à un barbecue mal maîtrisé. Et puis à Nouméa, Nouville, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir la nuit dernière vers 21h pour un feu de brousse. 5000 mètres carrés de végétation ont brûlé sans faire de blessés sur la montagne de l'université. Les soldats du feu ont pu maîtriser les flammes avec l'aide de 3 camions d'intervention durant près de 2 heures. Dans le reste de l'actualité, nous sommes le dimanche 5 janvier, jour de l'Épiphanie, synonyme de la galette des rois. La tradition est toujours très suivie, à en croire les nombreux clients qui n'ont pas manqué l'occasion de chercher aujourd'hui la fameuse galette, Michael.
Un jour pour marquer l'arrivée des rois mages à Bethléem après la naissance de Jésus. C'est aussi donc un rendez-vous de la gourmandise, en famille ou entre amis, à chacun sa recette de galette préférée.
C'est là l'Épiphanie.
Vous-même, vous allez suivre un peu la tradition, la galette des rois?
Oui, je vais chercher. Bah, toujours frangipane. Je pense pas que les autres, ça fasse... Ça n'a pas le même goût.
C'est pour manger en famille, vous surtout?
Tout à fait.
Avec la couronne pour les enfants?
On ne sait pas. Hein. Des fois, c'est pour nous, les grands aussi. Hein. On aime bien aussi trouver la couronne.
L'Épiphanie, peut-être?
C'est une tradition que vous suivez, vous-même?
Oui, oui, oui. Très régulièrement, souvent au travail.
Vous, c'est quoi votre recette préférée?
Je suis team frangipane.
Et on préfère la brioche des rois. C'est une brioche avec des fruits confits et de... Comment ça s'appelle? Fleurs d'oranger.
Oh, la frangipane, la classique, évidemment.
Quoi d'autre?
Pas d'excentricité de mon côté.
Frangipane.
C'est toi qui as trouvé l'affaire?
Oui.
Alors, t'étais contente, t'étais le roi?
Oui, mais j'ai dû la donner à mon petit frère, sinon il allait pleurer.
C'est un vrai problème.
Vous avez trouvé une solution?
On recache la fève, ce qui n'est pas une très bonne solution, mais c'est ce qu'on fait.
Oui, on est le dimanche, jour d'Épiphanie, donc on a profité pour faire un petit tour à la mer et puis comme ça on s'arrête pour acheter la galette. Puis ça réchauffe un peu les cœurs de se retrouver en famille après l'année précédente qui a été dure, donc voilà, on en profite. Moi j'ai un petit bébé qui est né en belle 13 mai d'ailleurs, 2024, donc ça va être sa première galette en famille, tous ensemble avec mon neveu et ma nièce. Il y a tous les goûts, mais là j'ai voulu changer, j'ai pris banane choco. C'est bon pour bébé aussi, comme ça il va pouvoir goûter.
Les grandes surfaces, mais aussi les boulangeries et les pâtisseries accueillaient ce matin de nombreux clients à la recherche des fameuses galettes. Yann a vu défiler de grands amateurs du genre depuis ce matin au comptoir de l'atelier gourmand à Nouméa.
Là, les gens veulent surtout les galettes frangipane, c'est le gros de la vente. Sinon, nous, on fait des galettes frangipane, banane, chocolat ou des galettes aux pommes pour les gens qui sont allergiques à l'amande. Cette année, nous avons qu'un seul modèle, c'est 6 à 8 personnes, et des petits modèles individuels. Chaque galette a sa fève. Ah, c'est une tradition qui perdure depuis très longtemps et les gens ils sont vraiment très attachés. Même avant Noël, ils nous demandent déjà les galettes. Et on en vend jusqu'au début février. 90% des ventes, c'est la frangipane. Ah, l'Épiphanie, c'est le troisième plus gros jour de l'année après le 24 décembre et le 31 en chiffre d'affaires.
De nombreuses variantes de recettes sont à retrouver, bien entendu, sans oublier les fèves et les couronnes qui les accompagnent. Mais la reine du jour reste la galette, incontestablement pour les gourmands.
Le tourisme reprend un peu de couleur en Calédonie grâce à l'afflux croissant des croisiéristes. Ce week-end, un nouveau bateau de croisière tout droit venu d'Australie a débarqué à Nouméa. Et à peine arrivé sur les quais ferrés, direction la gare maritime où les attendent de pied ferme les commerçants. Produits locaux, souvenirs et circuits touristiques inondent alors les lieux. Parmi les propositions, celle de faire un tour de Nouméa en scooter électrique avec la société de location de véhicules Amarant. Sarah fait partie de la société et explique être surchargée pour ce début d'année.
Là, ça fonctionne plutôt bien. Les touristes sont revenus. Janvier très chargé. Ils kiffent vraiment prendre les petits scooters. Ça marche plutôt bien, ouais. C'est bien de revoir du monde. C'est bien de voir les touristes qui apprécient notre pays. Et ça fait plaisir.
Pour leur conseiller quoi?
Alors, on fait un peu un itinéraire assez simple. On propose d'aller jusqu'au baie des Citrons, Lanzvata, monter jusqu'au Wentoro pour voir un peu la vue et un peu vers la promenade Pierre-Vernier. Les plus courageux vont jusqu'au centre culturel. Ça reste à peu près vers le sud, quoi.
Après 6 mois d'arrêt, les croisiéristes ont repris en novembre dernier, sur la Grande Terre. Un plaisir pour les commerçants, mais aussi les touristes qui viennent d'un peu partout, selon Christelle, artiste exposante à la gare maritime.
beaucoup d'Australiens. Alors après, il y a des origines différentes aussi. On a aussi des gens qui viennent d'Europe. Là, j'ai une dame qui venait, j'ai rencontré d'un bateau, c'est intéressant. Elle est de Prague, en fait. Elle est née à Prague. Elle parle super bien le français parce qu'elle a décidé de vivre en France. Et elle a vécu des années en Suisse. Et vous voyez comme quoi elle vient jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et elle nous dit, c'est extraordinaire de pouvoir parler français. Donc, on peut faire une escale, voilà. Et donc, elle m'a dit qu'elle va, d'ici la fin de l'année, elle part vers la Réunion. Donc vous voyez comme quoi voilà, les gens voyagent beaucoup.
Des croisiéristes heureux donc de visiter le temps de quelques heures la Calédonie et de peut-être repartir avec un souvenir.
J'aime la vue et le marché, j'adore le marché. J'ai repéré des peintures, mais je vais d'abord faire un tour. Très bel endroit, c'est ma deuxième fois en Calédonie. C'est très beau, les gens sont très gentils. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Nous allons faire un tour, puis revenir acheter.
De nouveaux bateaux de croisière devraient arriver aujourd'hui, mais aussi demain à Nouméa. Et en cette période de vacances scolaires, pourquoi ne pas aller faire un tour à l'aquarium des lagons ? Les visiteurs pourront y retrouver de nombreuses espèces marines, allant du serpent de mer au poisson clown, en passant bien entendu par les coraux. Mais depuis le début de la semaine, ce sont les tortues qui sont à l'honneur, et ce, pour tout le trimestre. Ce matin, les visiteurs étaient nombreux à circuler dans l'aquarium.
Je viens amener mes enfants là, pour le dimanche matin. Très joli, il y a plein de choses différentes, des ambiances différentes, donc bien aménagé.
J'ai vu des langoustes, des poissons, des étoiles de mer, un concombre de mer, des langoustes.
On aime toujours voir les tortues. Les enfants, c'est ce qu'ils aiment le plus. Et puis, tous les poissons, quels qu'ils soient.
On vient de Coney. Du coup, ça nous fait la petite sortie du dimanche avec le petit.
Les poissons.
Je trouve super, là, le petit est super content. On a passé une demi-heure avec les tortues dehors. Pareil avec les serpents, oui, ils aiment beaucoup.
L'aquarium des lagons qui est actuellement ouvert tous les jours de 9h à 18h. Midi 12, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en métropole et dans le monde. A tout de suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Léana Colombo.
Et en métropole, l'un incité à commettre des attentats en France, l'autre appelé à violer et tuer toute personne s'opposant au régime algérien. Deux influenceurs suivis par des milliers d'abonnés arrêtés pour apologie du terrorisme contre la France. Noémie Loisel détaille pour Europe 1 les suites judiciaires pour ces deux influenceurs.
Le premier est surnommé Zazou Youssef, âgé de 25 ans. Il comparaîtra dans un peu plus d'un mois, le 24 février, à Brest pour apologie publique d'un acte de terrorisme. En attendant, il est placé en détention provisoire. L'influenceur est visé par une obligation de quitter le territoire français depuis le 16 avril dernier. Il avait déjà été condamné en décembre 2023 pour des dégradations commises lors des émeutes à la suite de l'affaire Naël. Il avait incendié un club de tennis à Brest. Zazou Youssef avait écopé de 12 mois de prison ferme, mais l'Algérien avait fait appel. Il était resté libre. Le deuxième influenceur, âgé de 31 ans, est lui connu sous le pseudonyme Ima Tintin. Il est aussi visé par une OQTF, placé en garde à vue pour menace de mort. Celle-ci a été prolongée ce soir. Les faits ont été requalifiés en provocation directe à un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication publique en ligne. La France avait demandé à trois reprises un laissez-passer consulaire à l'Algérie en vue de son expulsion, mais aucune réponse positive. Les deux influenceurs risquent une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros.
Les deux influenceurs ont été signalés aux autorités par Choki Benzera, un activiste algérien réfugié en France. Il a déclaré au micro d'Europe 1 estimer que l'on assistait, je cite, à une campagne de terreur. Dans le reste de l'actualité et en métropole, rendez-vous fixé, mais appel à manifester maintenu. Les syndicats agricoles qui demandaient à être reçus à Matignon le seront le 13 janvier prochain par François Bayrou. Ils discuteront de toutes les mesures qui leur avaient été annoncées, mais repoussées depuis des mois à cause de la dissolution et des changements de gouvernement. Malgré cela, la coordination rurale compte toujours se rassembler avec ses tracteurs un peu partout en France, et ce, dès demain. Du côté des Outre-mer, 3 semaines après le passage du cyclone Chido, Marine Le Pen se rendra demain pour nous à Mayotte. La présidente des députés RN à l'Assemblée nationale vient apporter son soutien aux habitants de l'île. Un déplacement très politique où elle arrive en terrain conquis. Marine Le Pen qui a promis aux habitants qu'elle veillerait à l'application du plan Mayotte debout, présenté en début de semaine par François Bayrou. Le Premier ministre avait déclaré vouloir empêcher le retour des bidonvilles. Eh bien, c'est chose faite avec l'instauration d'un arrêté visant à limiter la vente de tôle. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, la tôle, élément central dans la construction des bangas, ces cases dans lesquelles vit un tiers de la population à Mayotte. Depuis ce matin donc, la vente de tôle bac acier est désormais restreinte aux professionnels et aux particuliers sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Objectif, limiter la reconstruction des bidonvilles par la population précaire et bien souvent sans papier de l'archipel. Un engagement de François Bayrou dans son plan Mayotte debout qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Mais dans les faits, 3 semaines après le passage du cyclone, des centaines de cases sont à nouveau sorties de terre dans les bidonvilles. Quelques jours à peine après la tempête, les habitants récupéraient déjà ce qu'ils pouvaient pour reconstruire au plus vite. Une urgence alors que c'est la saison des pluies à Mayotte et qu'ils n'ont aucune option pour se reloger. En début de semaine, le Premier ministre se disait conscient que la réduction des bidonvilles prendra du temps, notamment pour trouver et développer des centres d'accueil.
Parmi les objectifs du plan Mayotte debout, celui de faire revenir au plus vite les enfants dans les établissements scolaires. La rentrée se fera donc progressivement à partir du 13 janvier, a déclaré le Premier ministre. À l'international, un dernier adieu des Américains, l'hommage national à l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans, a débuté cette nuit pour nous dans sa ville natale de Plains, en Géorgie. De nombreuses cérémonies seront organisées jusqu'au 9 janvier, jour décrété pour le deuil national. Pour marquer le début des hommages, le président sortant Joe Biden a tenu à dire quelques mots.
C'est un jour triste, mais il nous rappelle une quantité incroyable de bons souvenirs. Aujourd'hui, l'Amérique et le monde, à mon avis, ont perdu un leader remarquable. Dans le monde aujourd'hui, certains voient en Jimmy Carter un homme d'une époque révolue, où l'honnêteté et le caractère, la foi et l'humilité comptaient. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une époque révolue. Je vois un homme non seulement de notre temps, mais de tous les temps. Quelqu'un qui a incarné les valeurs humaines les plus fondamentales que nous ne pouvons jamais laisser s'échapper.
Jeudi 9 janvier, la dépouille de l'ancien président américain quittera le Capitole et fera route vers la cathédrale nationale de Washington où auront lieu les funérailles. Le nouveau président Donald Trump, le président sortant Joe Biden et les anciens présidents encore en vie, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama sont attendus pour cette cérémonie. L'actualité internationale en bref, la Syrie restreint l'entrée des Libanais après un accrochage armé à la frontière. Dans un communiqué, l'armée libanaise a annoncé qu'un de ses soldats avait été blessé par des tirs d'hommes syriens sur une de ses patrouilles qui était en train de fermer un point de passage illégal. Il s'agit du premier incident du genre depuis la prise du pouvoir en Syrie par une coalition armée dominée par des islamistes le 8 décembre dernier. Et en bref, toujours cette information, la doyenne de l'humanité est morte. La japonaise Tomiko Itoka avait 116 ans. C'est la brésilienne Ina Canabaro Lucas, une religieuse, qui devient donc la femme la plus âgée du monde à 114 ans. Elle est née en 1908 et a même survécu au Covid-19. En France, depuis le 17 janvier 2023, la doyenne s'appelle Marie-Rose Tessier-Nebousseau. Elle fêtera ses 115 ans le 21 mai prochain. Midi 19, c'est sur cette information que nous marquons une seconde page de pause avant de revenir à toute l'actualité sportive.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est deux points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, hi-fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducos du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. Et avant de retrouver Léana Colombo et Michael Juneski, on fait un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Decathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Decathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Decathlon, à fond la forme.
Le sport est bien entendu du tennis à la une avec Shintaro Mochizuki qui est devenu le premier japonais à s'imposer dans le Challenger de Nouméa, Michael Juneski.
Il a gagné le BNC Tennis Open en battant hier soir en finale l'Australien aux origines tahitiennes Moerani Bouzige. Une victoire expéditive 6-1, 6-3. L'ancien numéro 1 chez les juniors s'est dit heureux de ce succès et surtout de ce séjour en Calédonie. On écoute Shintaro Mochizuki.
Yes, it was great. I mean, this was my first time being here in Nouméa.
C'était génial, c'était ma première fois ici à Nouméa. J'ai adoré l'accueil, les paysages, la plage au pied de l'hôtel. C'était super, j'ai vraiment aimé. Les gens sont si gentils.
People are so nice. You know, it was very windy.
Sur les cours, il y avait du vent toute la semaine. Ce n'était pas simple pour jouer. Mais j'ai réussi à trouver le moyen de gagner chaque match. C'est ce qui me rend le plus heureux cette semaine. C'était la grande semaine de la petite balle jaune sur le territoire. Près de 10 000 personnes qui ont en effet fait le déplacement pendant la compétition pour assister à des grands matchs, voire des grands noms du tennis mondial sur les cours du Wentoro. Et ce, jusqu'à la cérémonie d'hier soir. Les plus jeunes impliqués également dans cet événement aux côtés des bénévoles ont beaucoup apprécié, à l'image de Yael et Paloma. On les écoute.
Super cool, on a joué avec le finaliste du tournoi, donc voilà, c'est super. Donc on fait des petits points entre ramasseurs, donc voilà. Moi pour la finale, j'étais pour Moerani, donc l'Australien, parce que je l'aime beaucoup, il a fait des super points.
Là c'est une petite récompense.
Oui, c'est une petite récompense, oui.
C'était incroyable, il y avait beaucoup d'échanges et c'était cool. Hein. Il y avait beaucoup de public aussi qui encourageait, il y avait des belles balles aussi et puis voilà. Il y avait beaucoup de monde et il y a eu aussi il y avait vraiment tous les ramasseurs. C'était vraiment cool. À la fin, les cérémonies et tout, c'était génial.
Un grand moment de sport en Calédonie, le tournoi BNC Tennis Open que vous avez pu suivre au plus près hein, sur l'antenne d'RRB avec Léo Fichou en direct des cours du Wentoro tous les soirs pour notre émission spéciale et ce jusqu'à la finale hier sur le site de la Ligue Calédonienne de Tennis.
Toujours sur le territoire, il y a des sports de glisse au menu ce dimanche avec la One Hour Classic, un rendez-vous multi-support pour rendre également hommage à Michel Berthomier disparu l'an dernier. Ça se passera à partir de 13h30 à Nouméa, la Côte Blanche, sur le site de l'association calédonienne de planche à voile.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à l'île des Pins, c'est le 101.
Le sport sur la scène nationale du football avec la 16e journée de Ligue 1, Michael.
Et Nantes qui continue de faire face et Antoine Comboiré de tenir tête à ceux qui le voyaient limogé en fin d'année dernière. Les Canaries nantais ont signé un match nul précieux sur le terrain de Lille, 4e du championnat de France. Un but partout, score final. Après sa mise au point lapidaire lors de la conférence d'avant-match, on vous en parlait hein, dans notre édition d'hier soir, le coach calédonien a poursuivi sur sa lancée à l'heure de retrouver la presse spécialisée nationale pour le débriefing de cette rencontre chez les Lillois. Pas question de parler pour le moment, Antoine Comboiré.
Quand on se trompe, on dit, on fait un mea culpa. Ça n'a pas été le cas, donc je vais jusqu'au bout de ma démarche. Aujourd'hui, je ne pars pas. Par contre, la semaine prochaine, si je suis toujours entraîneur donc, du FC Nantes, contre Monaco, c'est fini, on passe à autre chose. Voilà, merci monsieur. Au revoir.
Voilà, Antoine Comboiré, très succinct donc après ce match nul très important hein, pour Nantes sur le terrain de Lille, avec ce score Nantes désormais 15e du championnat de France. De son côté, parmi les autres résultats du jour, Saint-Etienne aussi s'est donné un peu d'air après sa victoire contre Reims, 3-1. Enfin, Lyon a dominé Montpellier sur la plus petite des marques, 1-0. Je rappelle qu'hier, Nice avait battu Rennes 3-2. Les autres matchs à suivre demain, sachant qu'il y aura aussi un match important cette fois pour les clubs de Paris et de Monaco. Ce ne sera pas en championnat, mais ce sera du côté du Qatar pour disputer le trophée des champions.
Foot toujours sur les autres pelouses européennes.
Et en Espagne, le Real Madrid s'en est sorti sur le fil en battant Valence 2-1 en infériorité numérique avec 2 buts inscrits en fin de rencontre. Et puis pendant ce temps, toujours en Espagne, on disputait aussi les 16e de finale de la Coupe du Roi. L'Atlético Madrid a dominé Marbella 1-0, tandis que le Barça l'a emporté sur la modeste équipe de Barbastro 4-0. En Italie aussi, on jouait les demi-finales de la Supercoupe avec le Milan AC qui a battu la Juve 2-1 pour rejoindre son rival l'Inter Milan en finale. Pendant ce temps, dans le Calcio, Naples a battu la Fiorentina 3-0. Il y aura un duel romain demain, l'AS Rome contre la Lazio de Rome. En Angleterre, enfin, Manchester City s'est imposé sur West Ham 4-1. Newcastle l'a emporté sur Tottenham 2-1. Les Gunners d'Arsenal n'ont pu faire mieux qu'un nul à Brighton, 1-0. Demain, notez que les Reds de Liverpool feront face à Manchester United.
Du rugby avec la 14e journée du championnat de France.
Et une défaite de peu de Toulouse. Aujourd'hui, sur le terrain de La Rochelle, 22-19, les Rochelais qui ont dû s'employer pour faire tomber le leader du top 14. De son côté, Toulon s'est imposé sur le Racing 92, 36-24. Les Toulonnais sont 3e alors que les Racingmen dégringolent désormais à la 9e place. Parmi les autres résultats, une victoire de Castres sur Pau 24-19, de Lyon sur Perpignan 17-12, de Montpellier sur Bayonne 42-10. Et puis l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée sur le terrain du Stade français 46-19. Un succès qui permet donc à l'UBB de récupérer la première place du championnat de France. Demain encore une affiche, l'AS Clermont sera sur le terrain des Bretons de Vannes.
On termine avec les sports mécaniques, le Dakar 2025.
Première étape la nuit dernière et c'est l'Américain Seth Quintero sur Toyota qui a pris la tête du classement dans la catégorie auto. Sébastien Loeb avait le sourire. En effet, il a volontairement laissé filer des minutes afin de ne pas partir dans le groupe de tête ce soir pour la fameuse étape marathon de 48 heures chrono. Sébastien Loeb est actuellement 25e dans le tableau, mais c'était bel et bien sa stratégie. On l'écoute.
On s'est caché un coup. On a vu que Ekström Nasser passait. C'est les deux voitures qui nous suivaient. On a vu passer la Tegane, un de ceux qui avionnent derrière l'Afrique. Donc on a calculé, on s'est dit lui, il nous en met déjà 14. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, peut-être qu'on a pas assez, on s'est pas arrêté assez longtemps. C'est de pas être mieux que 10 demain. Tu roules doucement et tu te dis les autres sont meilleurs que ça.
Voilà le sourire de Sébastien Loeb, pourvu que ça dure. Dans la catégorie moto, cette fois, après avoir dominé le prologue, l'Australien Daniel Sanders a de nouveau été le plus rapide au guidon de sa KTM. Le meilleur français, Adrien Van Beveren sur Honda, a chuté. Il a perdu près de 14 minutes sur le leader. Il est actuellement 8e au classement.
Merci Mickaël Juneski. Midi 28, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon appétit si vous êtes encore à table.